Le journal de la semaine sur France Inter avec vous, Pierre Veille.
Et avec Alexis Brézet, directeur des rédactions du Figaro. Bonjour Alexis.
Bonjour Pierre.
Et Grégoire Bizot, rédacteur en chef adjoint à Libération. Bonjour Grégoire.
Bonjour.
Les attentats de Bruxelles, bien sûr, ces attentats n'ont pas été improvisés en quelques jours. Ils étaient en préparation depuis un bon moment. On n'a pas réussi à les empêcher. L'Europe est-elle faible face à la menace terroriste, Alexis Brézet?
L'Europe, elle est désunie, elle est divisée, puis elle est dramatiquement impuissante. Elle est désunie et divisée parce que chacun voit midi à sa porte, chacun se dit c'est pas pour moi, c'est pour l'autre. Les Allemands et les Italiens n'ont qu'une obsession en tête, c'est les migrants, et on peut les comprendre. Les Anglais pensent au Brexit, les Espagnols au chômage, et chacun se dit ça va pas me tomber dessus. Donc ça, c'est la division. Et puis il y a l'impuissance dramatique qui, à mon avis, beaucoup plus ancienne que ça, qui au fond que tous ces pays européens, en tout cas pays européens de l'Ouest, depuis 20 ans, 30 ans, se racontent, on peut faire venir des populations d'une autre culture, d'une autre religion, sans que c'est de conséquences, ou même que c'est des conséquences heureuses. Les yeux s'ouvrent petit à petit sur un certain nombre de conséquences. Malheureusement, ce sont les attentats qui ouvrent ces yeux.
Ça a d'abord été une question française et maintenant belge. Et c'est vrai que quand on revoit le film des opérations, il y a plusieurs questions qui ont révélé au minimum des grandes failles de communication entre justice, police, gouvernement sur la séquence depuis le 13 novembre. C'est-à-dire le temps qui s'est écoulé, c'est 4 mois. Je crois que la classe politique belge et le gouvernement, à juste titre, après cet terrible attentat, a essayé de gagner du temps pour que les sujets compliqués ne viennent pas tout de suite envahir l'espace public, mais il y a un devoir d'examen quand même minimum à entreprendre.
Sur ce que dit Alexis Brézet, qui fait quand même un lien, ou alors j'ai mal compris, entre immigration et terrorisme, Grégoire Bizot.
Alors, nous y voilà. Alors, moi j'aimerais surtout que dans ce débat évidemment politique et médiatique, on a l'impression que pour être crédible, il faut caricaturer les choses. Et que quand on met de la nuance, on est immédiatement suspecté, soit de mollesse intellectuelle, sur le mode, vous voulez pas voir, cachez la face. Alors, que nous raconte Alexis Brézet, que nous raconte le Figaro, une partie de la droite, je dis bien une partie, que nous raconte une toute petite poignée, mais oui, de socialistes, dont le Premier ministre Manuel Valls. Il nous raconte que le terrorisme est le fruit d'une équation implacable entre le communautarisme, la lâcheté politique, et l'islam.
Eh ben oui.
Eh ben vous faites cette équation.
Et c'est exactement ça, vous avez très bien résumé les choses.
Et elle est parfaitement, ça marche à tous les coups. Mmh. Il s'avère que cette équation ne tient pas du tout la route.
Pourquoi ?
Je vais vous expliquer, je vais vous donner 2 exemples.
Pas trop long.
Deux exemples qui sont imparables. Si le communautarisme produisait du terrorisme en masse, aujourd'hui, le pays d'Europe qui produirait le plus de djihadistes serait le Royaume-Uni. On est tous d'accord. Or, aujourd'hui, celui qui a fait du communautarisme un modèle de société dans lequel l'islam radical le voile...
Ouais, non, mais...
Attendez, je termine. Voilà. Ce n'est pas le cas. C'est aujourd'hui l'un des pays d'Europe avec l'Allemagne qui a, par habitant, envoyé le moins de terroristes en Syrie. Deuxième chose. Et c'est systématiquement dans la bouche du Premier ministre, et c'est grave. On fait une amalgame automatique entre l'islam radical, on l'appelle le salafisme, et le passage à l'acte terroriste. J'aimerais ici rappeler que le salafisme, aujourd'hui, c'est-à-dire, c'est une partie de l'islam rétrograde, conservatrice,
Attendez, je termine, c'est très important.
Voilà. Elle est résolument opposée au djihadisme. Je rappelle que l'imam de Brest, plus radical imam de Brest, très rétrograde, a été accusé par Daesh.
Ça fait 30 ans.
Ces équivalences, ça plaît beaucoup au Figaro,
mais ça ne tient pas, malheureusement.
Ça fait 30 ans qu'on nous chante cette chanson. Et peut-être davantage. Ça fait 30 ans qu'on nous dit, on nous le dit encore aujourd'hui, que l'islamisme n'a rien à voir avec l'islam.
Non.
Pardon.
Non, j'ai pas dit ça.
Vous êtes en train de nous dire. Pardon. Pendant combien d'années on nous a expliqué que Molenbeek était la cité heureuse, la cité de la diversité, la cité multiculturalisme, la cité où toutes les... Eh ben, c'est pas vrai. Maintenant, on se rend compte de ce qui se passe à Molenbeek, de ce qui se passe dans plein de villes françaises où on a cédé au communautarisme, on a laissé s'installer et les imams et les magasins halal et des populations. Et il y a un moment où ce terreau,
qu'on arrête avec ce genre de sous-entendu, c'est insupportable. Et vous
est-ce
savez
que vous
pouvez
m'expliquer? Alors expliquez-moi
que
pourquoi
qu'une boucherie halal produit des terroristes.
Expliquez-moi pourquoi à Molenbeek, quand la police belge intervient pour arrêter des terroristes, elle se fait caillasser par la population. C'est pas un tout petit problème, ça? Expliquez-moi pourquoi dans les quartiers nord de Marseille, les pompiers, je parle même pas des policiers, ne peuvent pas intervenir dans les quartiers sans se faire caillasser. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il ne se passe rien de grave dans ce pays et dans l'Europe?
S'il vous plaît, ne pas caricaturer non plus la position de votre interlocuteur. Est-ce que je vous ai dit qu'il se passe rien? Est-ce que je vous dis que l'islam radical, c'est pas une réalité et un problème en France et en Europe? Non.
Qu'attend-on pour agir?
Mais qu'est-ce que ça veut dire, qu'attend-on pour agir? Ça veut dire quoi, ces
anathèmes? Il y a plein de mesures à prendre.
À ce propos, Michel Sapin, le ministre des Finances, a été critiqué pour ses déclarations sur la naïveté des autorités belges face au communautarisme. En France, des quartiers façon Molenbeek, en Belgique, ça existe. François Pupponi, le maire de Sarcelles, avec Léa Salamé sur France Inter jeudi matin.
Tous les jours, on a des informations comme quoi des structures se mettent en place, des réseaux essayent de créer des mosquées qui posent des difficultés, de prendre le pouvoir dans d'autres mosquées qui n'en posent pas, de créer des écoles coraniques. Et donc, on a tous les jours des informations qui nous inquiètent parce qu'on sent qu'il se passe des choses en dessous. En fait, notre pays, mais je crois que c'est un peu le cas en Belgique, on a engendré un monstre. On a ghettoisé ces quartiers, on y a concentré tous les problèmes. Et Daesh a compris que dans ces quartiers, il y avait un monstre. Et ils ont animé le monstre. Et aujourd'hui, ces ghettos socio-ethniques, ils ont été réveillés par un autre, et certains jeunes extrêmement minoritaires de ces quartiers basculent dans la radicalisation.
Alexis, vous avez absolument raison, Pupponi. Et je vais vous dire, Sapin, sa phrase, elle était maladroite, elle était malheureuse, mais sur le fond, il a raison. La Belgique a été naïve, la France a été naïve, le Royaume-Uni a été naïf, parce qu'il y a eu aussi des attentats au Royaume-Uni. Et d'ailleurs, les islamistes du Royaume-Uni sont partis en Belgique quand les Anglais ont pris des mesures et donc ils sont allés s'installer à Molenbeek. L'Europe entière a été naïve. L'Europe entière s'est racontée qu'on pouvait laisser s'installer tout un tas de gens sans essayer même de les assimiler, qu'on pouvait laisser vivre avec entièrement leur communauté, leur culture. Eh ben, le résultat, on le voit.
Vous avez raison de dire qu'il y a probablement eu une certaine naïveté, que, évidemment, c'est un fait social et historique que se prend la société européenne et française en pleine figure et qu'on s'y est pas préparé. C'est probable. Vous avez parfaitement raison.
François Pupponi décrit une réalité.
Probablement une réalité qui doit exister dans certains quartiers de France. C'est possible.
Ah oui, le Mirail, les quartiers nord de Marseille, Lyon, la Duchère.
Il y a une frontière que vous franchissez allègrement et qui est, à mon avis, détestable pour le débat public et qui est fausse.
Vous êtes dans le déni.
Mais non, je ne suis pas dans le déni. C'est d'instiller dans le débat l'idée qu'aujourd'hui, un islam est potentiellement fournisseur de terrorisme.
Est-ce que c'est pas l'islam qui est fournisseur de terroristes? Pas tous les musulmans, pas tout l'islam, c'est évidemment l'islam qui est, ce terrorisme qui nous attaque, c'est pas le terrorisme, c'est pas la barbarie, c'est l'islamisme radical, c'est le djihadisme, c'est bien l'islam quand même.
C'est très important, c'est un vrai débat qui, d'ailleurs, c'est un débat intellectuel extrêmement puissant qui oppose au moins deux grands intellectuels, qui est de dire, est-ce que le terrorisme aujourd'hui est le fruit uniquement de l'islam radical? Ou est-ce que c'est ou peut être le fruit, pour reprendre l'expression d'Olivier Roy, qui est d'une islamisation de la radicalité, c'est-à-dire qu'il y a dans cette démarche même de terroriste quelque chose qui va au-delà
de mouche là, pardon.
Est-ce que c'est de l'islam radical ou de l'islamisation de la radicalité, je ne vois pas bien
la différence.
Parce que ce qui est premier, c'est très important. C'est là où vous vous trompez. C'est très important parce que ce qui est premier, c'est pas forcément l'islam. C'est autre chose. C'est un besoin de radicalité, d'engagement violent.
Le coup de la misère et tout ça, c'est pas vrai.
Non, je parle pas du coup de la misère.
Regardez le profil des
terroristes. Et par ailleurs, le coup de la misère, faut pas non plus le balayer d'un revers de main.
En tout cas, jusqu'à présent, ce sont pas des exclus. Ils sont allés à l'école. Certains avaient des emplois. Ils partaient en vacances. Donc c'est pas la misère sociale.
Vous savez très bien que les frères d'islam, par exemple, pour ne prendre que ces deux-là, c'était tout sauf des salafistes. Vous le savez très bien. Ce sont des gens qui allaient en boîte de nuit, qui fumaient du chichon et qui adoraient les filles. C'était tout.
Ils tuent des gens au nom de cette idéologie-là. Oui. Moi, ça m'est égal de savoir s'ils sont sincères ou pas sincères.
L'islam
la question,
pas
c'est
profond. Mais oui, mais l'islam n'est peut-être pas. Essayez, s'il vous plaît, de faire un petit effort. L'islam n'est peut-être pas premier dans cette histoire. Dans ce phénomène de radicalisation.
Voilà. Bah,
on
oui.
revendique l'islam.
N'est
c'est
pas
au nom de l'islam.
Okay, okay.
Non, c'est au nom de l'islam. Mais l'islam n'est peut-être pas premier dans le profil de ces jeunes.
Grégoire Bizot, Alexis Brézet, merci beaucoup, Patricia Martin.
Et merci à vous, Pierre Veille.